RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. C'est déjà le dernier jour, c'est passé très très vite de notre semaine spéciale dans Je pense donc j'agis à l'approche des élections européennes. C'est dans 24 jours. Exactement, on s'est emparé des grandes thématiques de ce scrutin, l'écologie, l'agriculture, l'immigration. Ce matin, la défense, et on va essayer de construire la paix jusqu'à 11h. C'est un vrai défi dans l'Union européenne. On va voir aussi ce que font les jeunes en la matière. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Pourquoi on a besoin de cette paix en France et dans l'Europe? Est-ce que vous connaissez des initiatives, des associations qui essaye d'œuvrer pour améliorer les liens peut-être entre les Européens? Parlez-nous de vos jeunes également, vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce qu'ils ont cette conscience? Est-ce qu'ils ont conscience de l'importance de construire la paix en Europe? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h, deux invités. Je commence avec vous, Benjamin Sibylle, bonjour.
Bonjour Melchior, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
C'est à moi de vous remercier, bienvenue en tout cas dans cette émission. Vous êtes le fondateur et directeur général de ce qu'on appelle le Service Civique Européen. Alors c'est plutôt le collectif d'ailleurs pour un Service Civique Européen que vous avez imaginé. Pourquoi d'ailleurs Benjamin? Est-ce que l'idée c'était de calquer le service civique en France qu'on connaît?
Alors notre but, c'est effectivement deux choses. La première, c'est ouvrir la mobilité européenne à tous les jeunes. Tout le monde a en tête, je pense, parmi nos auditeurs, que ce soit les parents ou les plus jeunes, le programme Erasmus, qui permet déjà aux étudiants, mais pas seulement, aussi aux apprentis, de se rendre un peu partout en Europe pour en fait y faire une partie de leurs études. Et nous, notre but, c'était en fait de permettre une mobilité européenne pour tous à travers des missions d'intérêt général. Donc aller aussi aider les autres à travers toute l'Europe. Donc pour ça, on a fait grandir, on a assemblé des programmes qui existaient déjà. Et effectivement, l'idée du service civique qui fonctionne très bien en France, 150 000 jeunes par an qui s'engagent chaque année, malheureusement, c'est quelque chose qui n'existe pas dans tellement d'autres pays d'Europe. Oui. Ça vient d'Allemagne et ça s'est beaucoup développé en Italie. Notre but, c'est qu'un jour, ça existe partout et d'avoir une espèce d'Erasmus des volontaires. 4,6 millions de jeunes un jour en Europe qui pourront s'engager chaque année dans ce type de mission.
Et on va voir un peu comment ça fonctionne, comment vous y prenez également. Avec nous également Tristan Guéra. Bonjour Tristan.
Bonjour Melchior.
Bienvenue dans cette émission Je pense donc j'agis et merci à l'équipe RCF Isère à Grenoble qui vous accueille en studio. Vous êtes politologue de formation, vous êtes aussi responsable de la recherche d'une association qui s'appelle Destin Commun, qui a plusieurs objectifs, notamment, ça c'est un des premiers, d'essayer de comprendre pourquoi on a tendance, alors c'est une généralité, on a tendance à se diviser un peu en Europe, Tristan Guéra.
Oui, tout à fait. Destin Commun, c'est la branche française d'une organisation internationale qui s'appelle More in Common, qui a été créée à la suite de l'assassinat de Jo Cox, qui était une jeune parlementaire britannique qui a été poignardée en juin 2016 par un nationaliste d'extrême droite durant le contexte du Brexit. Et le leitmotiv de cette jeune parlementaire dans son premier discours à la Chambre des communes, c'était que de dire en substance que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et donc notre mission consiste précisément à lutter contre l'amplification de la polarisation, oui. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur ce terme, dans la société, de bâtir, notre raison d'être c'est de bâtir une société plus soudée dont les membres sont convaincus que ce qu'ils partagent est plus important que ce qui les divise.
Alors vous l'avez entendu, si vous êtes avec nous ce matin dans Je pense donc j'agis, c'est à l'occasion des élections européennes. Que représente l'Europe pour vous, Tristan Guéra?
Écoutez, l'Europe, c'est un projet qui est multiséculaire, qui n'est pas forcément lié à l'Union européenne en tant que telle, au projet de l'Union européenne en tant que telle. Et ce dont les Européens devront se prononcer dans quelques semaines, c'est pour élire donc les représentants, les députés européens dans tous les pays qui composent l'Union européenne. Oui. Mais le projet européen dépasse de loin ce cadre institutionnel-là. C'est un projet politique qui est né il y a fort longtemps et qui peut être, dans une certaine mesure, associé à ce thème de l'émission, à ce projet de paix perpétuelle, si on veut, sur un continent qui a quand même connu des désastres, des guerres, un affrontement et peut-être quelque part aussi cette concurrence entre des États européens ou de ce qui n'était pas encore des États européens a peut-être aussi permis la naissance de ce génie européen, mais ça s'est fait à des coûts extrêmement élevés. En tout cas, c'est aussi une civilisation pour moi, l'Europe. C'est un univers de partage de cultures qui sont fort différentes, qui sont nées dans l'adversité et parfois dans la concurrence, mais en tout cas qui est un joyau assez inégalé dans le monde, en tout cas qui a sa propre histoire, sa trajectoire intellectuelle, historique, culturelle, qui fait que on est, je crois, tous fiers d'être européens.
Et vous, Benjamin Sibille, que représente l'Europe dans votre vie, dans votre parcours également ?
Alors pour moi, il y a une forme d'évidence, parce qu'il se trouve que je viens de Moselle germanophone, donc cette région un peu particulière de France, qui évidemment a nourri l'histoire, mais qui a aussi une histoire en elle-même un peu particulière, puisque les gens à la base sont des locuteurs allemands, mais français depuis très longtemps et se sentant français. Donc je pense que ce projet de service civique européen qui vise à unir les jeunes et à faire naître effectivement ce que rappelait monsieur, les liens un peu organiques qui existent déjà entre Européens, ça tire aussi son inspiration de ce territoire. Mais au-delà de ça, au collectif pour un service civique européen, pour nous, l'Europe, c'est avant tout le pari d'une vision positive du monde. Alors, effectivement, on peut le raccrocher à l'esprit inspiré par l'abbé de Saint-Pierre et son projet de paix perpétuelle. Mais au-delà de ça, c'est cette idée assez simple, hein, au final, que pour construire le futur, il faut faire le pari de l'ouverture, il faut faire le pari d'avoir envie de l'autre, il faut faire le pari d'essayer en fait de mettre nos forces en commun, et en particulier dans un monde qui, on le voit avec le retour de la guerre aux portes de l'Europe, hein, qui est peut-être de plus en plus menaçant. Donc notre idée, c'est en fait tout simplement ça, c'est de dire, à rebours, hein, de certaines visions du monde qu'on voit s'exprimer d'ailleurs de plus en plus fortement à l'occasion de ces élections européennes, c'est de dire que oui, on est plus fort ensemble, qu'on a besoin les uns des autres, et ça c'est vrai au niveau des États, mais surtout c'est vrai au niveau des simples citoyens. Et en fait, avec ce service civique européen où on permet à des groupes de jeunes, une vingtaine en général, de s'engager pendant 6 mois avec une moitié de jeunes locaux, donc par exemple en France 12 jeunes Français qui vont être pendant 6 mois avec 6 jeunes Italiens, 5 Allemands, un Belge, c'était comme ça la première fois qu'on l'a testé en 2020, pour faire des missions d'intérêt général, et bien en fait on fait vivre peut-être la vraie Europe, c'est-à-dire l'Europe des citoyens, l'Europe des gens, l'Europe de l'engagement, et c'est peut-être comme ça qu'on peut faire naître cette solidarité de fait qui au final donne tout son sens au projet européen, au-delà des traités et des relations économiques et ce projet effectivement civilisationnel.
Je reprends cette locution latine qu'on a évoquée dans la première partie de Je pense donc j'agis, qui était consacrée à la défense, civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Tristan Guerra, est-ce qu'on doit garder ça en tête quand même quand on veut construire la paix ? Est-ce qu'on doit garder en tête que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, hein, c'est pas nous de juger, mais il faut passer par la défense.
Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, on a considéré, on a fait du lien entre les États-Unis et l'Europe, on les comparait un peu à Mars et Vénus en théorie des relations internationales, c'est-à-dire que les États-Unis incarneraient la puissance virile, guerrière, associée au dieu de la guerre, et l'Europe finalement pêcherait un peu par naïveté, ou en tout cas se draperait dans la diplomatie, dans les habits de la paix et de la conquête de la paix par les droits qu'elle accorderait aux citoyens et par lesquels elle ferait tout le développement international pour lequel elle est extrêmement présente. Et finalement, est-ce qu'elle n'aurait pas péché un peu par naïveté au cours des dernières décennies ? Il semblerait que les derniers événements, et notamment les guerres qui aujourd'hui se déroulent presque aux portes du continent européen, que ce soit en Ukraine bien sûr, mais aussi finalement au Proche-Orient, en tout cas dans le bassin méditerranéen, qui est la région vraiment de proximité hein, à l'égard de l'Union européenne, tout ça invite à laisser penser que pas seulement la France, mais aussi un certain nombre d'États moteurs dans la construction européenne ont peut-être un peu délaissé l'idée de que leur puissance, au-delà de l'économie, était aussi de faire valoir que le continent européen est un continent armé et que c'est finalement la dissuasion d'un conflit, d'une guerre, de l'éclatement d'un conflit passe aussi par le fait de se préparer un peu par nécessité et aussi parce que nous vivons dans un monde que les citoyens estiment comme étant dangereux aujourd'hui encore ça fait sens.
Quoi. Ça doit être un vrai défi pour Destin Commun d'essayer justement de alors c'est un grand terme hein, d'établir cette paix mais justement en partant de ce constat qu'on est dans une société dessoudée et non pas assez soudée Tristan.
Mais tout l'intérêt de notre initiative, c'est de dire que ce que les gens partagent est plus important que ce qui les divise. Et c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le principal défi que doit relever notre génération d'après nous. Les Français, de manière générale, résisteront d'autant plus à la tentation du repli et à l'attraction qu'exerce un certain nombre d'extrêmes qu'ils auront le sentiment de vivre dans une communauté de destin partagé. Et qu'ils seront aussi mieux à même de relever les grands enjeux du temps présent. Donc c'est pourquoi chez Destin Commun, nos valeurs finalement guident notre travail. Mmh. Et donc c'est uniquement en essayant de mieux comprendre les ressorts des divisions, des tensions qui traversent la société française qu'on peut contribuer à effectivement renforcer la cohésion sociale. Et donc c'est en se mettant en quête des aspirations réelles de la population que, à nos yeux, on permet on fait un petit chemin dans la voie du dialogue, de la cohésion sociale.
Tendre vers cette cohésion sociale, Benjamin Sibylle, c'est aussi l'objectif, hein, on ne va pas se le cacher, du collectif pour un service civique européen, justement, à travers les parcours de tous ces jeunes.
Les retours qu'on a de ces jeunes sont effectivement extrêmement positifs sur ce plan, parce que c'est vraiment une expérience qui change la vie. Au-delà de l'expérience du service civique européen en tant que tel, l'expérience du service civique tout court, c'est un moment aussi de prise de confiance pour les jeunes. Je crois que la chose la plus émouvante qu'on nous ait jamais témoignée, alors c'était très au début de notre projet, mais ensuite on l'a réentendu assez fortement. C'était un jeune homme qui s'appelait Maxime, qui venait de Metz, qui était dans la première promotion du service civique européen et qui disait tout simplement « Écoutez, c'est la première fois que j'ai l'impression de servir à quelque chose, que je me sens appartenir à la société. » Donc on retrouve en fait un peu effectivement cette idée d'appartenance et de destin croisé. C'est encore plus vrai et encore plus nécessaire au niveau européen, parce que c'est vrai que le projet européen part un peu de ce pari un peu fou que même si les Européens ont énormément en commun, malgré tout, il existe des différences substantielles. Quiconque a voyagé n'aura pas manqué de le remarquer entre un Italien, un Finlandais. Et malgré tout, il faut réussir d'abord à s'écouter, ensuite à se comprendre. Donc il y a aussi la question de la langue. Et pour pouvoir le faire, effectivement, vivre la culture de l'autre, se rendre dans le pays, apprendre la langue, faire des choses ensemble, c'est ce qui va faire que cette solidarité puisse s'établir. Et peut-être de manière anecdotique, mais pas tant que ça, ce projet qui en fait ne m'appartient pas, hein, c'est une idée très ancienne, cette idée de faire voyager les Européens, on peut penser même à Erasme déjà à l'époque. Cette idée, elle est née aussi, en tout cas moi je l'ai synthétisée à l'époque dans le contexte de la crise grecque qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est vrai que des phénomènes, notamment par exemple à l'époque dans la presse allemande, où on souhaitait de voir les dérives financières grecques et on réclamait d'être punitifs, on imagine mal le Missouri blâmer le Minnesota pour le fait de ne pas avoir géré les choses et donc lui refuser son aide. Donc on a besoin aussi de faire naître ce sentiment en fait de faire appartenance à quelque chose de plus grand que simplement les villes, les régions, les États, et d'avancer ensemble. Et pour reprendre ce qui a été dit initialement, alors moi, il se trouve que je suis et j'étais officier dans l'armée de terre au 16e chasseur. Donc, qui veut la paix prépare la guerre, c'est quelque chose qui peut me parler. Voilà. Mais au-delà de ça, je dirais que peut-être qui veut éviter la guerre doit préparer la paix. Et ce qui est compliqué avec l'idée de la paix, c'est que c'est en fait un bien qui est toujours très fragile, mais qu'on a l'impression, quand on en jouit, qu'il est là pour durer. Et c'est qu'au moment où on le perd, qu'on se rend compte qu'il aurait fallu peut-être un peu mieux le préserver. Et donc, je pense que c'est ça qui est difficile aussi, peut-être, dans cette approche un peu plus positive et constructive. C'est qu'il faut faire les choses en amont et avant que les problèmes se manifestent, et pour justement essayer de les conjuguer. Et c'est toujours plus difficile de construire et de bâtir que de simplement détruire.
Ouais. Il est un peu plus de 10h15 dans Je pense donc j'agis, vous l'entendez ce matin. On parle de l'Union européenne, on essaie de construire la paix avec nos invités et bien sûr avec vos témoignages. Est-ce que vous y croyez ça d'ailleurs? Est-ce qu'on peut y arriver? Comment vous faites au quotidien? Est-ce que vous sentez cette identité européenne, cette cohésion sociale également? Parlez-nous également d'initiatives que vous connaissez proche de chez vous au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Benjamin Sibyl, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général du collectif pour un service civique européen. Et Tristan Guéra, vous êtes politologue de formation et responsable de la recherche de destin commun. Je vous lis un message qu'on a reçu de Romain. Je ne sais pas quel âge il a, mais il nous dit « Je suis normand, citoyen du monde et français ». Mais en aucun cas, je ne me sens européen. L'Europe est pour moi une construction artificielle créée pour lutter contre les États-Unis et la Chine d'un point de vue économique et commercial. Mais ce n'est certainement pas une identité en tant que telle. D'autre part, sa culture est mortifère. Bon, bah voilà un témoignage. C'est important d'entendre aussi toutes les voix. Tristan Guéra, alors il ne s'agit pas d'aller changer Romain, mais qu'est-ce qu'on peut lui répondre quand même? Que peut-on répondre à une personne qui ne se sent pas européenne?
Oui, c'est pas un cas isolé, oui. Si je puis dire. Il y a beaucoup de gens qui se sentent français et européens. Souvent, les identités vont de pair. On se sent appartenir à son village, on se sent appartenir à une région aussi française, et puis on se sent aussi appartenir évidemment à sa nationalité, puisque la construction du fait national au XIXe siècle a quand même entraîné un imaginaire collectif très puissant, qui est peut-être la raison pour laquelle l'Europe a aussi tant de peine à exister aujourd'hui. Mais effectivement, il y a beaucoup de raisons pour lesquels on peut se dire européen. Et peut-être la première d'entre elles, c'est lorsque vous avez la chance de pouvoir voyager en dehors justement de l'Europe, vous allez voir que par les autres, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique ou en Asie, vous allez être perçu comme tel, comme étant un Européen. Et les gens feront moins la distinction entre un Italien, un Allemand ou un Français qu'ils ne la font entre un Européen et un autre Asiatique ou un autre Sud-Américain. Donc faire l'expérience aussi c'est de son européanité, ça se fait aussi par le voyage, ça se fait aussi par la prise et la compréhension d'un univers quand même de sens et de culture qu'on a en commun. Moi, je crois fermement ça. Et puis après, au-delà, sur un plan plus personnel, par exemple, moi, je suis descendant d'immigrés italiens. Je suis installé à Grenoble. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il y avait une grande immigration italienne. Voilà, il y a un certain nombre de faits migratoires qui aussi ont eu lieu entre les États européens et qui participent de cette diffusion de la culture-là. Après, le sentiment identitaire, c'est très subjectif. Oui. Mais en tout cas, ça c'est le fruit d'une expérience, d'une trajectoire familiale, historique, d'une prise de conscience aussi. Mais en tout cas, bien plus, enfin là où je voulais insister, c'est que bien plus souvent, les identités vont de pair et qu'en réalité, on peut très bien se sentir, et c'est même le sens, je pense, de la construction européenne, de se sentir à la fois français ou allemand ou italien et européen.
Benjamin Sibyl, pour compléter peut-être.
Tout à fait sur la même ligne. Je crois que c'est Aimé Césaire qui disait déjà « Je me sens universel parce que particulier ». Moi-même, hein, je me sens effectivement aujourd'hui européen parce que français, parce que c'est aussi quelque chose voilà, qui est porté dans notre histoire, dans nos traditions, dans nos valeurs. Je pense d'ailleurs que les valeurs européennes aspirent, peut-être pas toujours de manière idéale dans la matérialisation concrète, mais en tout cas, elles essayent d'aspirer à l'universel. Et pour répondre à l'auditeur donc qui mentionnait un projet artificiel construit pour faire pendant à la Chine, aux États-Unis, alors évidemment, il ne faut pas non plus qu'on soit dans un réflexe obsidional de défense à tout prix de la forteresse Europe. Mais malgré tout, je trouve que c'est déjà, à vrai dire, une bonne raison d'être européen, parce que même si on se sent citoyen du monde, si évidemment on peut avoir des liens très forts avec les autres continents, les autres cultures, les autres, même on peut le dire, civilisations, parce qu'il ne faut pas gommer non plus les différences, c'est aussi ce qui fait qu'on est tous des êtres humains, c'est se retrouver dans nos différences qui nous ramènent au commun. Je pense qu'aujourd'hui, il existe aussi, oui, peut-être pas tant des valeurs, mais aussi des réalités européennes qu'il est nécessaire de faire vivre et de protéger par rapport à d'autres modèles. On peut penser notamment à ces valeurs assez fortes chez nous, de solidarité, l'existence quand même d'une protection sociale substantielle qui n'est pas notre apanage, mais qui malgré tout est une réalité européenne assez partagée par rapport au reste du monde, une vision effectivement aussi d'une société assez ouverte, d'ailleurs très inspirée par l'exemple français, qu'on peut venir sur notre continent, on peut s'y intégrer et on peut s'y sentir complètement part de la société, ce qui n'est pas non plus une réalité qui a été partagée par toutes les cultures de par le monde et de par notre histoire. Donc oui, il existe aussi un fait social européen qui mérite d'être mis en avant. Mais voilà, s'il fallait répondre, ouais. Je pense pas que l'Europe soit une fin en soi. Mais elle reste quand même une étape assez nécessaire et probablement aussi dans notre monde d'aujourd'hui.
Ben c'est bien parce que je reçois quelques témoignages et je trouve qu'on a de tous les avis, notamment Alain qui nous dit « Les jeunes ne s'intéressent pas aux élections européennes. Il y a un vrai manque de mise en avant de l'Europe dans l'éducation. Est-ce qu'on peut être aussi binaire, Tristan Guerra? Est-ce qu'il est vrai de dire, comme Alain le rappelle, que les jeunes ne s'intéressent pas aux élections européennes ?»
Alors, est-ce que s'intéresser aux élections européennes, c'est forcément, ou ne pas s'intéresser aux élections européennes, c'est forcément se désintéresser de l'Europe? Moi, j'en suis pas si sûr. Le vote, c'est quand même quelque chose de très particulier. On connaît, on sait que le rapport au vote traduit aussi une intégration sociale, traduit aussi des pratiques qui sont différentes d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, effectivement, 32% des jeunes, hein, que ce soit 18-24 ans, ou même si on monte jusqu'à 35 ans, participeraient au scrutin européen en juin prochain, alors que ça monte à plus de quasiment 70% chez les gens qui sont âgés de plus de 70 ans. Donc vous voyez l'énorme écart en termes d'intention de participer aujourd'hui au scrutin qui traduit effectivement des pratiques de vote différenciées. Après, est-ce que ça, c'est la marque forcément d'un désintérêt pour les questions européennes? Moi, je crois pas. On peut tout à fait imaginer que les jeunes générations, et on le mesure dans les enquêtes par sondage, que finalement, la connaissance en tant que telle du projet européen n'est pas forcément aussi différente entre les générations. Qu'il y a effectivement un grand brouillard qui entoure toutes les institutions européennes, les mécanismes de fonctionnement, la technocratie européenne, les institutions européennes au-delà de ça, qui effectivement est très forte, mais elle est très forte dans l'ensemble de la population qui n'arrive pas à se repérer dans ce jeu institutionnel-là et qui peut décourager certains pans de la population et notamment les jeunes à se désintéresser de ce scrutin. Mais est-ce que pour autant on a longtemps parlé de génération EasyJet, de génération qui était plutôt ouverte, accueillante, qui cultivait ces valeurs-là, qui sont des valeurs, Benjamin l'a rappelé, inhérentes à la construction européenne. Et tout ça, bah, les jeunes endossent peut-être plus que leurs aînés, et c'est peut-être là le paradoxe, ces valeurs-là. Alors, ça ne se traduit pas dans le vote, mais pour autant, est-ce qu'on peut réellement dire que les jeunes sont désintéressés des enjeux européens au sens large, de la construction européenne et de comment ils perçoivent l'Europe dans le monde? J'en suis pas si sûr.
Benjamin Sibylle, ce qu'on entend quand même, hein, à travers ce que vous dites ce matin, à travers aussi les quelques réactions qu'on a eues, c'est qu'il y a quand même un besoin de mobiliser les jeunes sur les questions européennes. Ça, c'est un vrai défi pour vous, Benjamin, dans le cadre du collectif?
Un défi, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, une motivation quotidienne. Nous, ce qu'on réalise, en fait, chaque jour, c'est que beaucoup de jeunes, comme l'évoquait un peu Tristan, ils font un peu de l'Europe comme Monsieur Jourdain de la prose. C'est-à-dire que quand on ouvre nos candidatures pour les 600 jeunes environ qui aujourd'hui à travers l'Europe font un service civique européen, que ce soit dans le cadre du corps européen de solidarité proposé directement par l'Union européenne ou le service civique national, on récolte en général de 20 à 40 candidatures pour un poste ouvert. Et quand ces jeunes commencent, et que du coup ils réalisent pour la première fois, ils conscientisent cette expérience européenne, bah, en fait, ils se rendent compte que il y avait plein de choses qui vivaient déjà dans leur vie, qui étaient des réalités européennes. Effectivement, le fait de pouvoir franchir une frontière, le fait de pouvoir voyager, et ainsi de suite. Mais le gros problème qu'a l'Europe, c'est que parfois, effectivement, elle est un peu un concept éthéré qui a du mal à exister dans la vie quotidienne des gens. Et le meilleur moyen de faire vivre cette Europe, c'est peut-être ces expériences que nous on voit et qui sont très enthousiasmantes. Quand on a des jeunes gens qui viennent d'un peu partout dans le continent et qui vont aller aider des personnes âgées en maison de retraite, et qu'on a des personnes âgées qui nous disent, bah, en fait, moi j'étais d'origine polonaise, ça faisait 50 ans que j'avais pas parlé ma langue et qu'il est larmes aux yeux, quand ils peuvent le faire, bah, ça leur rappelle leurs enfances et tout. Et ils nous demandent, mais pourquoi ces jeunes viennent faire vivre cette solidarité européenne? Et je crois que c'est comme ça aussi peut-être qu'on peut faire vivre l'Europe. Et puis au-delà de ça, l'intérêt des jeunes, aujourd'hui peut-être qu'il a muté, peut-être qu'effectivement il se manifeste moins dans le vote, même s'il faut dire qu'une fois qu'il y a eu cette expérience concrète, nous on a quand même des jeunes qui ces dernières semaines nous ont un peu, si j'ose le mot, harcelés pour dire, ah oui, mais comment est-ce qu'on fait pour voter parce qu'on est dans un autre pays, ainsi de suite, enfin, c'était très important pour eux. Donc parfois il faut aussi qu'il y ait un peu un déclencheur pour se rendre compte que cet enjeu il existe. Mais au-delà de ça, on a une jeunesse qui veut surtout vivre un peu autrement sa citoyenneté, une citoyenneté peut-être plus engagée, plus directe, qui passe moins par voilà des formes un peu plus passives comme le vote, mais qui est plus marquée sur le terrain. Et par exemple, il y a quelques semaines, avec la ville de Paris et dans le cadre des Jeux Olympiques, on a organisé un forum international des jeunes pour la paix. Pendant 3 jours, des jeunes du monde entier, donc qui montrent aussi qu'effectivement l'Europe ne se limite pas à ses frontières. Il y a quand même aussi un projet universel qui se sont réunis, 300 jeunes à Paris, pour faire des propositions et des projets de paix ensemble qui vont vivre maintenant dans les 2 prochaines années. On a quand même eu plus de 1200 candidats pour 300 postes au final. Donc oui. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt.
On va continuer d'en parler. Laurent, vous êtes là, Laurent? Vous êtes garé. Eh ben, écoutez, je vous laisse patienter 30 secondes. On marque une petite pause. Et puis, on se retrouve juste après, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23. Vos mails à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc, j'agis. Vous venez nous parler de l'Union européenne, de la construction de la paix, de vos jeunes, de vos enfants, petits-enfants. Bref, il y a plein de choses à dire. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis. On continue cette émission avec Benjamin Sibille, directeur et fondateur du service civique européen, du collectif pour un service civique européen pour être précis, et Tristan Guerra, politologue et responsable de la recherche de Destin Commun, une association. On va entrer dans le détail d'ailleurs dans quelques instants. Laurent nous a rejoint sur la route. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes dans quel coin?
Ah ben, je suis sur Moulins.
Sur Moulins, eh ben parfait, on vous écoute.
Oui, alors moi je voulais intervenir par rapport au message que vous donnez de l'Europe fantastique. Je trouve que c'est un petit message un peu bisounours que vous faites. L'Europe, c'est, pour vous, ce serait franchir les frontières pour les jeunes, voyager facilement, etc. Mais l'Europe, c'est une infime partie de ce que peut être l'Europe. L'Europe, ça devrait être, et ce qui n'est pas encore, faudrait la réparer parce qu'elle fonctionne mal. Elle fonctionne mal au niveau économique, elle fonctionne mal au niveau social, elle fonctionne mal au niveau fiscal. Ça, c'est la réalité que vivent les entreprises, que vivent les agriculteurs, que vivent les gens dans la réalité économique. On parlait d'Europe de la défense, mais comment, si l'économie, l'Europe économique et l'Europe sociale ne fonctionnent pas, comment voulez-vous faire fonctionner une Europe de la défense? Il y a une très grande méfiance à l'heure actuelle dans la population vis-à-vis de l'Europe. Mais personne ne donne confiance. On a parlé de pseudo-scandale, on ne sait pas, qui concerne la présidente de la Commission européenne vis-à-vis des vaccins, à propos de l'achat des vaccins. Et ça, au lieu que ce soit déballé au grand jour, expliqué, recherché, etc., on le balaye, on n'en parle pas, on cache. Il y a eu le Qatargate, on cache, on dissimule, etc. Comment pouvez-vous donner confiance en l'Europe en ayant des fonctionnements comme ça? Comment pouvez-vous donner confiance en l'Europe quand il y a une Commission européenne qui impose des normes sans s'occuper de leur application, sans s'occuper des contraintes économiques que ça va représenter, et cette Commission européenne, on ne sait pas comment elle apparaît, on ne sait pas d'où viennent les personnes qui la composent, on ne sait pas pourquoi ils sont là, qui ils sont et ce qui a motivé leur position à cet endroit-là.
Merci. Merci Laurent. Voilà, vous avez fini?
Dernière chose.
Oui, rapidement.
Très rapidement. Vous avez parlé que le général, entre autres, a parlé que l'Europe créait la paix depuis qu'elle est créée. Et là, c'est absolument faux. C'est absolument faux. On a eu une guerre en Europe, à moins de 2000 km de nos frontières, bien avant ce qui se passe en Russie, la guerre du Kosovo. L'Europe existait. Et qu'a fait l'Europe? L'Europe n'a rien fait. L'Europe n'a rien fait et on a encouragé même le conflit. Voilà.
Merci beaucoup Laurent, on a entendu votre témoignage et vos remarques ce matin au 04 72 38 20 23. Vous faisiez référence au général Jérôme Pellistrandi qui était avec nous dans la première partie de l'émission. Alors, j'ai essayé de prendre des notes, il y avait beaucoup de choses intéressantes aussi dans le témoignage. Tristan Guerra, je commence avec vous, parce que Laurent, peut-être en dénonçant certaines choses au sein de la construction européenne, nous disait mais comment les jeunes peuvent-ils avoir confiance envers l'Union européenne. Je trouve ça intéressant parce que cette question de confiance, de défiance, de méfiance, elle est présente aussi quand même en France vis-à-vis du gouvernement et des jeunes.
Tout à fait. Et ce serait un peu illusoire de dissocier le rapport à la politique en France et le rapport à la politique en Europe. C'est pas un hasard que les générations les plus âgées maintiennent toujours ce lien de confiance à l'égard des institutions politiques françaises et elles l'ont également à l'égard des institutions européennes. Pour autant, elles ont moins été socialisées à l'Europe que les jeunes de ces 20, 30 dernières années. Oui, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'a dit Laurent, peut-être sur le point des jeunes. Est-ce que vous avez entendu dans cette campagne des propositions particulières des listes, des candidats aux élections européennes à l'égard des jeunes très ciblés pour essayer de cultiver leur intérêt, pour essayer de montrer que les politiques publiques européennes économiques s'adressaient en particulier à ça? Moi, j'ai le sentiment que l'Europe est un continent assez vieillissant, que il y a des clientèles électorales à entretenir qui sont représentée beaucoup par des seniors, qu'il y a tout un ensemble de problèmes qui sont un peu ignorés ou un peu laissés en deçà. On a beaucoup parlé de la question sociale et comment l'Europe s'emparait de cette question sociale-là. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe, par exemple, lors de la crise de l'inflation qu'on a connue durant ces dernières années. Tout ça est quand même un peu laissé sous le tapis et nourrit une forme de défiance à l'égard du projet européen, c'est sûr.
Benjamin Sibylle.
Pour préciser sur ça, alors il se trouve que la plupart des partis politiques, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou des regroupements européens, hors extrême droite, ont intégré, à vrai dire, comme mesure jeune, l'idée de faire grandir un service civique européen et une possibilité de mobilité à travers l'engagement civique à travers l'Europe. Alors peut-être que la mesure n'est pas assez portée, médiatisée, mais en tout cas, voilà, c'est une des propositions phares de cette campagne. Maintenant, sur le reste, et par rapport notamment à ce qu'évoquait l'auditeur, moi, je me suis efforcé de partager une réalité européenne qui existe, qui est réellement vécue par des jeunes, qui est aussi vécue par les gens qui sont en contact avec ces jeunes et qui peuvent bénéficier des missions très diverses qui sont réalisées, qui effectivement est une réalité très très positive, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement aussi des problématiques plus dures auxquelles il faut faire face. Effectivement, ouais. Probablement un constat assez partagé que l'Union européenne nécessite d'être réformée, d'être améliorée. Mais derrière cette idée, et nous c'est une valeur qui est très forte, en tout cas au sein du collectif pour un service civique européen et de l'ensemble de nos associations partenaires, c'est que probablement la politique ne peut pas être que l'affaire des politiciens et que et même des institutions. Il y a aussi ce besoin de citoyenneté engagée, encore une fois, qui d'ailleurs est une valeur très européenne. Au final, depuis Athènes, Sparte, Rome, on peut le penser. Alors peut-être que c'est aussi un peu difficile de faire porter ce message aux citoyens qui peuvent se sentir un peu écrasés par la multiplication des problèmes, par aussi la difficulté parfois de comprendre les enjeux. Mais la réponse, en fait, elle est en chacun d'entre nous. Quand on dit que il y a un manque de transparence au niveau de nos représentants, quand on dit que effectivement il y a une réalité économique qui semble écraser les autres sujets au sein de l'Union européenne, c'est aussi parce que le citoyen n'a pas forcément toujours réussi à réclamer toute sa place au sein de cet édifice européen, ou d'ailleurs aussi même au niveau national. On peut songer d'ailleurs au rôle du ouais. Parlement européen, qui reste encore relativement effacé parfois par rapport à la réalité qui existe dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, avec un rôle du Congrès beaucoup plus fort. Mais donc voilà, ces réalités qui sont là, probablement que le moyen d'y répondre, ce n'est pas juste simplement de balayer le concept de l'Europe d'un coup, c'est tout simplement de s'y engager un peu plus, de s'y intéresser un peu plus, effectivement aussi d'avoir une forte participation aux élections européennes pour que cette Europe, ça soit la nôtre et pas seulement celle d'une minorité qui se mobiliserait. En tout cas, c'est notre conviction.
On entendra Catherine et Magali au 04 72 38 20 23 qui voudraient réagir à cette émission. Tristan Guira, je voulais qu'on parle de Destin Commun, hein, l'association que vous représentez ce matin. Vous en êtes responsable de la recherche. De la recherche, justement, ça fait partie de votre méthode de travail. Votre objectif et votre fonctionnement, c'est vraiment d'aller recueillir de la donnée, des analyses quantitatives, qualitatives, pour ensuite mettre en place des actions, c'est ça ?
Oui, effectivement, on entend beaucoup dans les narratifs, si vous voulez, médiatiques, dans la parole de certains responsables politiques, qu'on serait dans une société polarisée avec deux France qui se feraient face à face, avec un risque de basculement de la société, toutes sortes de dramatisations comme ça, un débat qui serait crispé, etc. Et nous, on essaye de développer tout un ensemble de d'outils, de travaux, de connaissances aussi de la société française à travers plusieurs choses. On essaye d'appréhender d'abord la société française comme non pas un tout uniforme, mais de bien connaître ses différentes composantes. Et pour ça, on s'est servi de travaux en psychologie sociale, dans l'étude des sondages, pour essayer de caractériser les grands groupes qui sont caractéristiques de la société française du point de vue de leurs différences dans leurs fondements moraux, dans leurs appartenances de groupe, dans leur disposition au pessimisme, à l'optimisme, dans leur perception de la menace. Bref, tout un ensemble d'indicateurs qui nous permettent d'aller au-delà de strictement des indicateurs socio-démographiques, de mettre en branle tout cet univers de valeurs pour aboutir à mieux comprendre par notre expérience tout ça. Alors ça passe par des axes de travail qui sont assez nombreux. On va essayer de cultiver, avec des acteurs de la société civile, de cultiver l'agentivité, c'est-à-dire rendre les personnes actrices de leur vie pour lutter contre le très répandu sentiment d'impuissance et d'invisibilité qui alimente la défiance politique dont on parlait il y a quelques instants, oui. De lutter contre l'isolement relationnel qui s'étend dans notre pays et qui contribue finalement à la peur de l'autre. Il ne peut pas y avoir d'empathie, donc de cohésion sans connexion humaine. On essaye de tenir compte des peurs aussi dans nos contenus, y compris celles des personnes, de certains groupes qui sont plus effrayés que d'autres, plutôt que de les nier ou de les dénoncer. Et la recherche a montré notamment que l'autocensure sur des questions morales faisait augmenter là aussi la défiance, de redonner confiance à cette espèce de milieu ambivalent qui est paralysé par la puissance vocale de cette France polémique qui a tendance à étouffer les autres voix plus modérées, de lui rappeler que ce milieu ambivalent est majoritaire et qu'il n'est pas souhaitable qu'il s'autocensure, de dénoncer aussi les experts de la politique identitaire, des entrepreneurs de chaos. De ménager une place pour l'espoir et surtout pour le traitement de l'information aussi qui rend notre société assez anxiogène et qui cultive cette société de la peur.
Catherine, bonjour.
Bonjour Melchior et encore merci pour cette émission très intéressante.
Merci, on vous écoute.
Voilà, je voulais apporter mon témoignage. J'ai une fille, ma fille aînée qui a 31 ans et nous avons eu récemment une discussion sur le vote justement. Aux européennes, parce que moi je suis très engagée pour le civisme et la citoyenneté. Et elle me disait qu'elle n'ira pas voter, qu'elle ne votera pas non plus à d'autres scrutins, parce que elle ne se sent pas représentée dans ce qu'elle demande par la majorité, étant donné que mathématiquement les jeunes sont en nombre inférieur que les plus âgés, et notamment les boomers. Elle dit que même si elle vote blanc, étant donné que les votes blancs ne sont pas comptabilisés, oui. Donc pour elle son vote ne sert à rien et que elle vit comme ça. Voilà, elle dit que c'est un pays âgé. Moi je pense que les jeunes ont de la bonne volonté aussi. Hein. Personnellement, je les vois autour de moi, j'en fréquente beaucoup. Ils ont beaucoup de bonne volonté. Ils font des choses pour la paix, pour la citoyenneté, comme vous l'avez expliqué dans votre émission très bien d'ailleurs. Il y a une belle idéologie. Hein, le dernier intervenant parlait de tous les maux de la société et de comment la psychologie sociale peut aider à trouver des solutions. Mais en même temps, qui s'intéresse à ça et qui va s'en occuper, c'est pas forcément des jeunes. Et encore une fois, donc elle n'ira pas voter. Voilà, la citoyenneté pour elle dans le vote ne passe plus par le vote.
Et en France, pour des élections françaises, elle vote?
Non, elle n'ira pas non plus, parce qu'elle est très, très déçue. Très, très, très déçue.
Eh bien, écoutez, Catherine, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, un témoignage de terrain, Benjamin Sibyl. Alors, on sort un petit peu de notre sujet, mais finalement, ça fait partie du jeu aussi d'entendre un peu les réalités chez nos auditeurs et nos auditrices. Une jeune qui ne veut pas voter parce que, un, ça ne sert à rien, on l'entend dans le témoignage, et deux, de toute façon, les jeunes ne représentent pas la majorité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Et comment peut-être on peut essayer de convaincre? Parce que c'est important de voter, il faut le rappeler aussi.
Alors, évidemment, il est important de voter parce que, encore une fois, quand on s'auto-exclut d'un phénomène social et de société en particulier, un phénomène qui a quand même vocation à prendre des décisions pour les années à venir, et on peut rappeler que ces élections européennes, elles vont être cruciales à deux titres. D'une part parce que la nouvelle mandature va en fait adopter les budgets européens Donc ça veut dire qu'on va être pieds et poings liés pour environ 8 années. Et comme ça a pu être évoqué par Tristan et par les auditeurs, bah, l'Europe est quand même très importante pour prendre les décisions sociales, économiques dans nos sociétés. Donc c'est quelque chose qu'on va vivre pendant des années. Et puis la deuxième chose, c'est que cette élection, elle est quand même importante en fait pour un choix de société qui engage l'Europe, mais aussi, je pense, oui, une certaine vision de la France qui, dans ses 1600 années d'existence, a un peu incarné. Effectivement, cette vision un peu universaliste du monde, cette vocation d'être ouvert et avancé avec la montée de certains partis d'extrême. Il est évident que voir un pays comme la France s'engager par le vote dans une voie extrême lui retirerait toute possibilité en fait de parler au reste de l'Europe et d'avoir une légitimité pour s'adresser aux autres Européens. Alors que dans les dernières années, notamment avec la montée des menaces, l'invasion de l'Ukraine, les conflits au Proche-Orient, la France a été amenée à en fait exercer une forme de leadership européen puisque, comme ça a pu être rappelé plus tôt, elle reste la dernière armée d'Europe constituée, capable de se projeter et ainsi de suite. Donc il n'est pas neutre non plus ce résultat aux élections européennes. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire et qu'il faut répéter, je ne pense pas que le vote doit être l'alpha et l'oméga de nos sociétés et de l'engagement citoyen. Effectivement, s'il y a des jeunes qui souhaitent, je pense que c'est une erreur, mais c'est une vision personnelle, mais qui souhaitent ne pas s'exprimer par le vote, mais qui le compensent par un engagement de terrain, par un engagement associatif, par un engagement qui peut être simplement personnel, d'aider les autres. Alors il y a une phrase, malheureusement elle est de Ronald Reagan, mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément fausse. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut tous aider quelqu'un. Si c'est le vécu de ces personnes-là, je pense que c'est aussi une autre manière de vivre sa société, sa citoyenneté. Mais là où ça peut devenir problématique, c'est effectivement quand on tombe dans la critique de tout et un peu le découragement moral, individuel et collectif, et qu'on attend les choses et qu'après, du coup, on subit
un peu passif.
Les changements du monde.
Ouais. Bonjour Magali.
Bonjour, merci de me donner la parole.
Avec joie.
Alors, en tant qu'enseignante, je voudrais faire deux remarques. Première remarque, quand on a créé l'Europe, on nous a avertis, on nous a dit, dorénavant, vous enseignez aux enfants la Marseillaise et l'hymne européen. Et vous leur expliquez ce que c'est que l'Europe et vous leur faites aimer l'Europe. Même les petits, on voulait qu'on apprenne aussi les paroles de la Marseillaise, qui ne sont pas tellement pour des enfants, mais enfin voilà. Et donc moi je faisais apprendre aussi le dernier couplet de la Marseillaise qui appelle à la solidarité. Et puis, bien entendu, je leur faisais aimer cet hymne européen qui a une musique superbe et des paroles magnifiques. Et puis, on nous avait distribué des petits fascicules qui expliquaient l'organisation de l'Europe et qui étaient à distribuer dans toutes les écoles, si bien que les parents étaient instruits par les enfants, puisqu'ils recevaient par eux le petit fascicule. J'en ai toujours un dans mon armoire, voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que si on veut que les jeunes adultes soient motivés pour s'engager, y compris par le vote indispensable, pour l'Europe, il faut bien entendu leur faire savoir ce que c'est que l'Europe, le bienfait de l'Europe, comment on peut aimer l'organisation européenne. C'est bien chez les étudiants d'avoir créé ce mouvement d'étudiants en ton pays, ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Voilà.
Faut aller plus loin pour vous.
On leur donne ce respect, cet amour, de dire j'aime ma France, mais j'aime aussi
l'Europe.
Le pays autour, et je veux qu'on s'entende tous pour faire une Europe qui sache se défendre. On ne sait pas se défendre avec l'Ukraine, on voit bien qu'on ne sait pas défendre l'Europe. Alors, parce que depuis tout jeune, on ne monte pas cette politique morale de dire je dois aimer la France, je dois aimer chacun de son pays, voilà, de l'Europe. Mais je dois aimer aussi l'Europe parce qu'on ne peut pas faire ça, cette union, si on veut survivre. Voilà.
Merci beaucoup Magali. Et on va écouter d'ailleurs quelques secondes de l'hymne de l'Europe que vous aimez tant, Magali, que vous aviez appris quand vous étiez plus jeune.
Régne la fraternité.
Voilà, l'ode à la joie, on va peut-être pas l'écouter entièrement, sinon on va l'avoir dans la tête toute la journée. Benjamin Sibylle, moi je trouve ça touchant, ce témoignage de Magali, voilà, qui se souvient de ces années où à l'école on lui apprenait bien sûr peut-être les valeurs de la France, mais aussi de l'Europe. Est-ce que ça manque ça à l'école ?
Ah, c'est difficile d'ajouter à ce témoignage qui effectivement est très parlant. J'ai eu l'occasion de l'évoquer avant, tout ce que nous on essaye de faire avec ce service civique européen qui s'adresse quand même avant tout à des jeunes, donc à des gens entre 18 et 30 ans, c'est effectivement d'apporter cette expérience concrète, ce vécu qui forcément est aussi une forme d'éducation civique à l'Europe. Et par rapport à la question des hymnes, c'est vrai qu'il est toujours un peu paradoxal de voir opposer le sentiment d'appartenance français et européen quand les deux sont tant liés par l'histoire. Alors évidemment, avec des vicissitudes et des situations qui ont été complexes, mais on peut rappeler par exemple la Marseillaise a été un hymne européen. C'est l'hymne historiquement de la première forme d'Allemagne libre et démocratique, la première forme de Roumanie libre et ainsi de suite. Et d'ailleurs, l'ode à la joie elle-même, Beethoven l'avait dédiée et consacrée aussi à cette révolution française qui apportait des espoirs de libération et donc voilà cette vision d'une France qui essaye d'apporter sa pierre à l'édifice du monde. Il me semble qu'elle rejoint beaucoup effectivement la vision européenne. Donc tout à fait d'accord pour dire que oui, à partir du moment où on pense qu'il faut éduquer le citoyen aux valeurs que porte notre pays, nécessairement, on en vient aussi à la question européenne. Alors, est-ce qu'elle est assez abordée dans les classes ? J'ai 32 ans, donc ça fait quelques temps que je ne les ai pas
fréquentés. On est jeunes tous les trois, d'ailleurs, je tiens à le dire. C'est-à-dire moins de 35 ans. Marie, bonjour.
Alors là, moi, je suis dans les beaucoup plus. Bon,
oui, mais ça.
Oui, moi, je suis de la génération des grands-parents, mais je suis de la génération. Merci de m'accueillir et merci à vous de ces émissions. Je suis de la génération des grands-parents et nous, l'Europe, c'était quelque chose où on avait à participer au moins, si on ne pouvait pas faire effectivement, mais du moins dans une adhésion active, j'allais dire. Et donc, c'était passionnant et c'était nécessaire. On sentait que c'était quand même une chose absolument nécessaire, vitale, etc. Donc, c'est devenu, alors je me mets à la place de jeunes d'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, et de même avant, c'est devenu quelque chose d'une institution organisée, fonctionnement, c'est devenu un fonctionnement et non plus quelque chose à construire. Donc, il n'y a plus à participer, il y a seulement à adhérer, à essayer de comprendre ce que les autres ont fait, à essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils veulent maintenant, les grands. Ben, ça n'a rien de passionnant. Un fonctionnement, ça n'a jamais enthousiasmé personne. Quelque chose à bâtir, oui. Et quand on est jeune, subir un fonctionnement où on voit que c'est plutôt des technocrates et des bureaucrates, hein, parce que c'est ça, et on voit les inconvénients de la technocratie et de la bureaucratie, parce qu'on en voit, écoutez, les agriculteurs, ils ne se suicidaient pas dans le temps, et maintenant, ils se suicident avant l'emploi. Et pour prendre qu'un exemple, et ça n'enthousiasme pas. Donc, la générale, la nôtre, moi, je vais encore aller voter, mais je comprends très bien que si j'étais jeune, il faudrait qu'on me mette un petit peu autre chose à l'hameçon pour que je prenne.
Oui, comme un service civique européen, par exemple, ou comme destin commun. Voilà. Mais c'est très intéressant, Marie, et ça nous permet de prendre du recul aussi et de faire le lien entre plusieurs générations. Ce que nous dit Marie, Tristan Guerra, c'est que maintenant, on subit l'Europe, je mets ce mot entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est vrai, on n'est plus dans la construction européenne, puisque l'Europe est là, de toute façon, avec 27 États membres. Alors, bien sûr, il peut y en avoir plus ou moins, hein, ça dépend. Mais ce n'est plus que de la bureaucratie maintenant, Tristan.
Oui, c'est vrai que la technocratie du fait européen est quand même assez répandue. Cette image-là est assez répandue. Paradoxalement, l'Europe n'a peut-être jamais été aussi présente dans nos vies. C'est-à-dire qu'un certain nombre de décisions qui avant se prenaient à l'échelle nationale, avec la montée de la mondialisation, avec le processus lui-même de la construction et de l'intégration européenne, fait qu'un certain nombre de décisions, aujourd'hui, je pense au premier titre à toutes les politiques climatiques, doivent aujourd'hui avoir un contour européen. Et c'est pas les seuls, loin de là. On a rappelé l'agriculture, etc., l'industrie aussi, dans une certaine mesure, qui font que, au moment où il y a une forme d'indifférence de la part des citoyens à l'égard du projet européen et que effectivement on n'en soit plus à la construction, au premier pilier, on va dire, de la construction européenne, bah pour autant, l'Europe n'a jamais eu un impact, un effet aussi fort dans les vies des citoyens européens, et d'où la nécessité de se mobiliser. Et pour y revenir un peu sur les précédents témoignages, on parle toujours de « ah oui, voter, c'est pas nécessaire », mais s'abstenir a un coût aussi, en termes politiques. C'est-à-dire qu'on verra c'est les acteurs politiques, les acteurs politiques européens, nationaux, moins s'intéresser à nos intérêts si on s'abstient. Donc il faut pas... L'acte de voter ou pas aux élections, c'est un acte qui est soit négatif quand on s'abstient, soit positif quand on se rend aux urnes. C'est pas uniquement positif et puis rien et puis nul. Voyez, donc il y a un calcul qui est peut-être difficile à appréhender, mais qui existe. Deuxièmement, le fait que les citoyens français se sentent aussi absents est peut-être lié aussi à la culture politique nationale en France. Je m'explique. En France, on a l'habitude d'une certaine verticalité du pouvoir. On élit un président de la République une fois tous les 5 ans, et puis on a l'habitude que les décisions soient prises de manière très verticale, oui. Finalement, soient exécutées. Alors, en Europe, c'est différent. Et c'est ça peut-être la spécificité de comment la citoyenneté, comment le fonctionnement de l'Union européenne est perçu en France, c'est qu'il y a beaucoup de codécisions, il y a beaucoup de décisions par consensus, on est 27, on met longtemps, etc., à se mettre d'accord pour forger les politiques publiques de demain, de 2035, etc. Et que, effectivement, je comprends que beaucoup de gens se sentent un peu perdus sur des processus qui ne correspondent pas à la manière dont la politique se fait en France. Mais où est l'anomalie? Est-ce qu'elle se situe plutôt au niveau européen où on essaye finalement d'avoir des concerts politiques, d'essayer de prendre des décisions par consensus, ou bien en France où on a l'habitude d'élire une personne une fois tous les 5 ans et qui décide, voilà, qui a champ ouais. libre presque. Voilà. Donc je comprends que cette organisation politique, parce qu'il s'agit bien de ça, soit difficile pour nos concitoyens à manier.
Eh ben, c'était utile d'en parler en tout cas aujourd'hui. Merci vraiment à tous les deux. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est passé très très vite. Tristan Guéra, politologue et responsable de la recherche de Destin Commun, à retrouver sur le site destincommun.fr. Merci Benjamin Sibyl également pour votre participation, fondateur et directeur général du collectif pour un service civique européen, à retrouver sur le site internet service-civique-européen.com. On mettra tous les liens sur notre site rcf.fr, ce sera un peu plus simple pour retrouver tout cela. Merci à l'équipe de RCF à Grenoble, et notamment à Nicolas qui vous accueillait, Benjamin Tristan ce matin. Merci à Nicolas, Baptiste, à Catherine à la réalisation. Si jamais vous avez vos enfants ou petits-enfants qui hésitent encore pour aller voter, s'ils ne sont pas vraiment convaincus par l'Union européenne, eh ben allez leur dire d'écouter peut-être l'intégralité des émissions, je pense, donc j'agis de cette semaine. Je pense que ça pourrait vraiment leur donner quelques idées. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voter le 9 juin, c'est important. Et puis, allez vous renseigner également sur les programmes des candidats. Ne vous fiez pas forcément aux programmes, aux candidats que vous aimez en France. Là, on vote pour l'Europe, c'est totalement différent, donc allez vraiment vous renseigner. Merci à toutes et tous pour vos retours sur cette semaine spéciale Union Européenne. C'est un vrai plaisir d'avoir été avec vous. On se retrouve demain, hein, vous inquiétez pas. 9h, le Presse Club, et 10h, votre émission de jardinage préférée. Prenez-en de la graine. Bonne journée.